En ce qui concerne la Guinée a passé pour la première fois à l'EPU en 2009 et en 2010, pardon. Et notre organisation a été, disons, l'une des rares organisations à avoir organisé un atelier préparatoire pour le passage de la Guinée à l'EPU. Donc la majeure partie de la société civile n'était pas informée de ce processus. Donc, nous avons organisé un atelier préparatoire où nous avons invité certaines organisations à l'atelier. Et par la suite, il y a la coordination des organisations de défense des droits de l'homme qui a aussi organisé des consultations. Et la Guinée est passée en 2010. Et sur 114 recommandations, bizarrement, avec un régime militaire de transition, la Guinée a ratifié sur 114 recommandations, 109 recommandations que la Guinée a acceptées. Et par la suite, du retour au pays après le passage, il y a eu la coordination des organisations de défense des droits de l'homme avec certaines organisations ont organisé un atelier de restitution. Et il y a des séries d'activités qui étaient prévues qu'on allait d'organiser pour informer, vulgariser les recommandations, non seulement dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Mais il y a eu aussi, on était dans les élections présidentielles aussi, et qui a connu où il y a eu beaucoup de tensions politiques. Donc après, les militaires sont partis. Il y a l'une des recommandations d'abord, c'était l'organisation des élections présidentielles, législatives et communautaire. Donc, il y a eu les élections présidentielles, il y a un président civil qui est venu, mais dès après les élections, le pays a connu encore des tensions politiques. Pendant presque près d'une année, chaque fois, il y avait des mouvements, il y avait des manifestations. Donc, on n'a pas pu, les organisations n'ont pas pu faire le suivi des recommandations qui ont été faites à la Guinée. Donc, sauf ce que je sache, l'organisation des élections présidentielles et l'adoption de la Constitution aussi, parce que la Constitution était dissoute au moment où la Guinée passait à l'examen, comme il y avait un régime militaire de transition. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas pu faire avec les tensions politiques. La Guinée n'a pas pu, et les organisations n'ont pas pu faire le suivi des recommandations. Et tout dernièrement, la Guinée doit passer pour le deuxième cycle en janvier 2015. Et il y a des activités aussi qui sont organisées. Il y a la redynamisation de la coalition EPU de la Guinée. Déjà, le rapport de la société civile est déposé. Et avant que je ne quitte la Guinée, il y avait le ministère des Droits de l'Homme qui est chargé maintenant, parce que le ministère des Droits de l'Homme a été créé en 2012. Donc, il y a le ministère aussi qui organisait des consultations avec la société civile pour le rapport de l'État. Et quand je quittais, il y avait des missions de sensibilisation que le ministère organisait dans la capitale aussi, à l'intérieur du pays. Et il y a un atelier qui a été organisé pour l'adoption du rapport national avec la société civile aussi. Donc, je pense que le problème que nous avons surtout eu, c'est dans le cadre de suivi des recommandations. D'abord, le premier problème, il y a les tensions politiques. Et le deuxième aussi, c'est lié à la méconnaissance du processus même par la majeure partie des membres des membres de la société civile. Et le manque de stratégie aussi pour le suivi des trucs, des recommandations. Et on a anticipé aussi, mon organisation avec d'autres organisations, on a anticipé pour pouvoir, après le deuxième passage, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que lors du premier passage, on a anticipé, déjà tout est prévu, d'organiser des séances et des trucs, et comment on appelle, pour organiser la vulgarisation. Et des recommandations, non seulement dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Mais aussi, c'est prévu de traduire les recommandations dans les différentes langues, dans certaines langues nationales, les langues les plus parlées dans le pays. Parce que le problème aussi, il y a beaucoup, c'est un pays à majorité analphabète. Donc, les recommandations, c'est en français. Si on n'arrive pas à les traduire, donc ça sera difficile d'intéresser d'autres parties prenantes ou bien d'intéresser une grande marge de la population. Donc, ça, c'est prévu après le passage d'organiser des ateliers de restitution et aussi. Et les gens ont aussi besoin de renforcement de capacité parce que les gens ne sont pas informés du processus EPU. Peu d'organisations connaissent le processus EPU. Et ceux qui le savent aussi, ils ne savent vraiment pas comment ça se déroule. Vous voyez? Donc, on a ce problème. Et on est en train de lier des contacts aussi pour le renforcement des capacités. Et je pense que depuis que je suis là, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'impliquer les enseignants dans le processus et aussi les parlementaires. Parce que je me dis que les parlementaires, c'est vrai, ils ne s'intéressent pas beaucoup au processus, mais ils ont un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre des recommandations à partir du moment qu'ils ont pour mission de contrôler les actions du gouvernement. Donc, nous souhaitons le renforcement des capacités des enseignants et des parlementaires aussi sur le processus EPU. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire.